col padrone, son tutti da ammazzare. Oli, oli, olà, e la Lega crescerà. E noi altri lavoratori, oli, oli, olà, e la Lega crescerà. E noi altri lavoratori vogliamo la libertà. E voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia, e voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia e aprite il portafoglio. Oli, oli, olà, e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori. Oli, oli, olà,
là, c'est une chanson bien traditionnelle du Piémont, du début de ce siècle. La Ligue à les femmes qui n'ont pas peur et de, que leur fils meure et qu'elles se battront pour la lutte de leur famille et autres. Alors, je reviens à ma question parce que Nadine y a répondu en partie. Mais Annette et Evelyne, qu'en pensez-vous? Quand vous avez lu cette histoire, est-ce que le destin des femmes, les personnages des femmes ont particulièrement attiré votre attention? Vous avez eu envie de, je sais pas, comme il y a des fois on a l'impression quand on lit, on lit vite certaines pages parce qu'on a envie de savoir la suite de le vécu de certains autres personnages. Est-ce que ces destins-là vous ont particulièrement frappé?
Alors moi j'ai particulièrement apprécié la description de cette femme qui s'appelle Antonia, qui est donc, si vous vous le rappelez, la deuxième femme de Louis. Et c'est une femme dont, beaucoup plus jeune que lui, dont il est tombé amoureux au premier regard. C'est une jeune fille d'une assez bonne famille, mais complètement déshéritée. Et les femmes de la famille de Louis ne sont pas du tout contentes à l'idée qu'il va épouser cette jeune fille qui n'apportera aucune dot et dont on ne sait même pas si elle sera capable de s'adapter à la vie de la ferme. Et c'est vrai que c'était une surprise aussi pour moi. On se demandait comment cette jeune fille arriverait à s'intégrer dans la vie de la communauté paysanne. Alors j'aimerais vous lire un petit passage où elle arrive justement dans la maison. La rencontre entre la Magna Munia et Antonia eut lieu un après-midi où il faisait si chaud que les feuilles pendaient, inertes, et que l'herbe crépitait sous les semelles. Quand la Magna Munia la vit arriver dans l'allée, seule et sans chapeau, elle feignit de la prendre pour une gitane et fit le signe de la croix. Antonia s'était arrêtée sous les pommiers et Pietro Giuseppe avait couru à sa rencontre. Il aimait Antonia. Il aimait son rire frais, même s'il était rare. Il aimait son silence et son grand calme. Ses baisers, rares eux aussi, qui ne soufflaient pas une haleine chargée comme ceux de Fantina ou de la Magna Munia. Cet après-midi-là, il la prit par la main et la conduisit vers sa tante qui peignait sous le noyer. Alors seulement, la Magna Munia montra qu'elle avait compris qui elle était et elle laissa échapper son pinceau en signe de surprise. Une haine soudaine, totale, avait décoloré ses lèvres. Voilà, c'était elle. Elle s'assiérait sur le tabouret devant l'épinette. Elle prendrait le frais le soir au jardin dans le petit fauteuil d'osier comme s'il était le sien depuis toujours. Elle donnerait des ordres à la Limasa et à Marlatera. C'était celle-là que Louis, dans son inconscience oublieuse et misérable, dans son infidélité stupide, allait leur imposer à eux tous. Elle allait toucher, utiliser, jeter le peu qui restait encore, effaçant de son obscure présence les traces fugitives et solaires de Thérésina des Maturlins. Dans une intuition grossière et infaillible, elle comprit ce qui avait attiré Louis. En un instant, elle vit les courbes, la peau, elle dépista l'animal sous la toile fanée de la robe. Elle se pencha pour ramasser le pinceau à terre et elle avait déjà établi une stratégie. Une fois redressée, elle leva un regard distrait et ses paupières tombèrent légèrement en signe de salut Puis elle revint avec son pinceau sur la toile. Cependant qu'Antonia, qui allait s'élancer, était restée les mains tendues, la bouche déjà prête au baiser. Le silence grandit entre la jeune femme debout et la religieuse assise devant son chevalet. L'une trempait son pinceau dans la couleur et l'essayait sur la palette comme si rien d'autre au monde ne comptait. L'autre, debout dans l'ombre du noyer, tentait de dire quelque chose à propos des fruits peints sur la toile et ses paroles tombaient dans le vide. Morte, inaudible pour les oreilles de la religieuse, elle sombrait dans le bourdonnement d'une guêpe entre les pétunias fanées des géraniums nains.
Alors une page choisie par Annette pour vous tirer de ce livre que nous, dont nous discutons en ce moment, Les routes de poussière de Rosetta Lay, Rosetta Loi, oui, écrivaine italienne, livre que je vous rappelle que nous ont choisi nos habituelles compagnes de la librairie L'Inédite, Annette Zimmermann et Evelyne Merlach, pour Remue Ménage, comme tous les mois, Remue Ménage 93.8, si jamais vous nous rejoignez en ce moment. Alors, Evelyne, toi, il y a un personnage de femme aussi qui t'a frappée particulièrement, ou bien c'est l'ensemble des personnages qui t'a séduite ?
Non, moi, j'aimais beaucoup le personnage d'Antonia, mais j'y reviendrai après par le biais de son père. Mais il y avait une autre femme, ou un passage qui m'a frappée beaucoup sur, au fond, comment un destin de femme peut être tronqué. Ou comment une femme peut devoir entrer sur une voie qui ne l'amènera pas vraiment à la plénitude. Par exemple, une voie où il n'y aura pas de mariage, où il n'y aura pas d'union, où il n'y aura pas de sexualité, où on élèvera les enfants des autres, par exemple. Et alors, ça a été, par exemple, le destin de Louison, qui a élevé les deux sœurs du début du livre qui épouse ou qui se trouve à un moment donné en face des deux frères, c'est-à-dire Maria et Fantina. La femme qui les a élevées, c'est leur tante Louison, à la mort de leur mère. Et Louison est une femme qui n'a jamais pu qui s'est jamais unie à aucun homme, alors qu'elle était tout à fait une femme dans sa jeunesse agréable, fraîche, qui dansait, etc. Mais bon, elle a dû renoncer à cette voie pour se consacrer à élever ses deux petites nièces. Et il y a un passage, moi, qui m'a beaucoup frappée tout à la fin de sa vie. J'aimerais vous le lire. Ce fut également la dernière fois que Louison sortit de la maison. Donc elle est très vieille à ce moment-là. Après le choléra, ses cheveux n'avaient pas repoussé et personne n'avait plus vu sa tête, qu'elle lavait chaque matin à l'eau de rose avant de remettre sa coiffe. Son rêve aurait été d'avoir une perruque, mais personne n'avait jamais voulu lui en acheter une parce qu'elle était trop vieille et la dépense inutile. La seule à s'émouvoir avait été Bastianina qui, avant d'entrer en noviciat, lui avait offert sa grosse tresse brune. Louison avait créé avec cette tresse une infinité de combinaisons. Elle l'avait épinglée à sa coiffe, frisée en bouclette, lissée en deux bandeaux de chaque côté du visage. Mais l'après-midi de la représentation de carnaval, alors qu'elle passait le fer dans les cheveux, elle les avait brûlés. La puanteur avait empli la maison, Louison était une femme de principe, et elle était allée quand même à la représentation avec ses boucles semblables à des toupets d'épis de maïs. Et les enfants avaient ri d'elle. De retour à la maison, elle avait ôté sa coiffe et elle avait montré à la famille ébahie sa tête chauve, brillante, lisse comme un os. Puis, sans rien dire, elle était montée dans sa chambre et cette nuit-là, on l'avait entendue se lamenter d'une voix perçante. Elle criait après Maria, Fantina, Gabriel et Louis, et même Gonda et Marla Teira, à cause de la perruque que personne n'avait jamais voulu lui acheter. Elle criait et criait. Réveillés dans leur lit par cette voix, ils étaient tous restés immobiles. Personne n'avait osé s'aventurer à travers le corridor pour aller la calmer. Mais le matin suivant, Gabriel était parti à cheval lui acheter une perruque en vrais cheveux. Il dépensa une somme qui, en cette année de misère, représentait pour tous un sacrifice. Châtain clair, cette perruque avait appartenu à une actrice célèbre et ses boucles aux reflets cuivrés pouvaient être attachées de 7 manières différentes. C'était une journée de soleil froid et sec et Louison, assise sur le lit, la contempla longuement sans oser la toucher. Ensuite, quand elle fut seule, elle la posa sur la commode, en équilibre sur la bouteille de verre bleu dans laquelle elle conservait son eau de rose, et elle resta la regarder jusqu'à ce qu'il fît noir. Après tant d'années, elle était revenue au dialecte vénitien et personne ne comprenait ce qu'elle disait, les mains jointes d'émerveillement. Mais de ce jour-là, elle ne voulut plus se lever, si ce n'est pour peigner et caresser la perruque, la changer de place quand le soleil tournait, afin de mieux voir les reflets d'un roux sombre. Elle était sourde et pouvait donc rester impassible devant toutes les exhortations à quitter son lit, cependant que son regard, devenu avec les années couleur d'une eau glauque, se levait sur son interlocuteur, plus absent encore que ses oreilles. Elle épinglait parfois sur cette perruque des rubans, de vieilles fleurs, de tissus du temps où elle était jeune fille. Un matin, à Marlateira qui lui apportait son lait, elle donna l'ordre de le poser sur la commode et de le donner à la princesse, entendant par là la perruque. Ce fut la dernière chose qu'elle dit, avec un sourire tout en gencives, étiré, plein de rides.
Alors ces femmes dont nous venons de parler ont chacune effectivement un destin assez particulier, qu'elles soient les femmes de la famille, qu'elles soient les femmes un peu annexes, les tantes qui ont récupéré, qui ont recueilli les enfants, qu'elles soient les femmes de maison, parce qu'il y a aussi des femmes qui travaillent comme domestiques dans la maison. Mais elles ont aussi toutes les caractéristiques des femmes de l'époque, bien évidemment, c'est-à-dire qu'elles sont à la maison, elles ne travaillent pas à l'extérieur, elles n'ont pas de profession, à part peut-être Bastiane, à la future nonne qui, elle, va étudier un petit peu, mais on a l'impression que c'est ça qui fera qu'elle sera évincée et envoyée au couvent. Mais toutes les autres restent à la maison et s'occupent de leurs enfants et vivent une vie de femme assez limitée, entre autres au niveau de leur sexualité, par exemple. Alors, Annette, tu voulais nous parler des enfants?
Oui, je trouve que c'est très facile, en lisant ce livre, de s'imaginer cette cour de ferme, cette grande maison dans laquelle les enfants sont très très importants. Et j'avais l'impression aussi que certaines idées sont un petit peu fausses parfois sur cette époque. Cette idée un peu théorique du fait qu'effectivement on avait beaucoup d'enfants, il n'y avait, on le verra tout à l'heure, aucun moyen de contraception. Et les enfants, on en avait beaucoup, plusieurs mouraient. Mais on s'habitue peut-être à cette idée. Enfin, moi, je pense que dans ce livre, on voit justement à quel point les enfants sont très importants pour leurs parents, pour leur mère, puisqu'on parle un petit peu des femmes maintenant. Ici, on s'attache maintenant à ce que les femmes vivent dans ce livre. Et que pour elles, c'est aussi fondamental que pour nous aujourd'hui, avec toutes les commodités, avec toutes les facilités qu'on a pour élever nos enfants par rapport à elles. Et ça m'a énormément touchée de voir à quel point elles consacraient beaucoup de temps à les élever, à les aimer et à les sauver dans les situations où parfois c'est très difficile d'intervenir, étant donné par exemple qu'il n'y a pas de médecin, qu'il n'y a pas de médicaments, et que c'est presque par suggestion qu'elles arrivent parfois à maintenir leurs enfants en vie. Alors je voulais lire un petit passage sur l'histoire de la fille d'Antonia qui a la rougeole, et dont la femme de confiance s'occupe. Mais elle n'en eut pas le temps. Piulotte eut la rougeole et pendant un mois, la limasa ne s'éloigna pas de son lit. La nuit, elle regardait à la lumière de la lampe à huile la tête de Piulotte devenir de plus en plus petite, le duvet collé à l'oreiller par la sueur, si noir qu'on aurait dit la tête d'un chiot. Un silence sans fond, obscur, oppressant, s'accumulait dans les angles. Elle se mordait les ongles jusqu'au sang de peur de s'endormir, et pendant tout ce temps-là, elle repensait à sa vie. Depuis le moment où Gabriel l'avait amenée dans la maison, jusqu'à sa rencontre avec le dragon, quand, assis sur le banc de Bigio, il lui avait parlé de l'Auvergne et de son village, le Puy. Elle caressait la main de Piulotte, posée sans force sur le drap, et les doigts petits et bruns semblaient pétris dans la terre, prêts à s'émietter. Ce n'était pas la fille du dragon, ni même celle de Louis et de Madame. C'était l'enfant né de son souffle, et par son souffle maintenu en vie.
Oui, on pourrait dire un mot sur la sexualité de ces femmes. Une chose est claire, on les instruit peu sur le sujet. Même pas leur propre mère les instruisent. Donc, elles arrivent en général au moment du mariage, à une union avec l'homme, et on n'a pas l'impression qu'elles en tirent, en tout cas au début, beaucoup de plaisir. Les hommes non plus, on ne sait pas très bien comment ils apprennent à se débrouiller. Il n'y a pas beaucoup de renseignements sur le sujet. On pourrait penser que les hommes s'adressent à des professionnels. À un moment donné, c'est un peu suggéré, mais ce n'est pas vraiment développé. Hein. Et même là, on n'a pas l'impression que c'est une question de classe sociale non plus, parce qu'on a des personnages de différentes origines sociales dans le livre, et ces femmes en sont toutes réduites à la même ignorance. Qu'il s'agisse d'une servante comme la Limassa qui tombe enceinte, elle ne sait pas très bien comment. Et d'ailleurs, voilà, on voit là une qui doit se séparer de son enfant pour garder. C'est curieux, hein, étant donné qu'elle est elle vient d'une classe sociale très pauvre, si on peut dire. Même elle est obligée de garder une certaine garder la face, garder une certaine dignité, et elle va accoucher, enfin, elle s'éloigne pour vivre sa grossesse soi-disant avec un mari qui n'existe pas. Et elle revient une fois qu'elle a accouché, qu'elle a confié son enfant à quelqu'un qui l'élèvera pour elle. En tout cas, pendant quelques années, elle est obligée de cacher son enfant.
C'est vrai que c'est frappant la façon dont elle s'invente son mari. Hein, il ne faut pas que ce soit dit qu'elle n'ait pas eu l'histoire d'amour qui lui a fait...
Absolument, elle invente un mari, s'éloigner. Elle invente la mort d'un mari, même voilà, pour expliquer son retour à la ferme à un moment donné. Elle ne parle pas de son enfant, donc de l'enfant qu'elle a eu, hein, de lui. D'ailleurs, elle l'a eu avec un homme qu'elle n'aimait pas, et elle fait croire qu'elle l'a avec un autre, avec celui auquel elle aurait voulu s'attacher. Mais un soldat, mais qui n'a fait que passer dans sa vie comme il a passé dans la province. Il y a une autre chose dont je voulais parler aussi, c'est au fond de quelle manière le monde extérieur lointain arrive quand même par petites bouffées à entrer jusque dans cette maison quand même où les gens vivent d'une manière assez retirée. Parce qu'on a deux cas, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure à propos d'Antonia. Le père d'Antonia, en fait, est un homme de Saint-Domingue. Donc, il est venu de loin. C'est même peut-être un mulâtre, d'où on signale souvent sa couleur très brune. On la compare à une gitane, mm-hmm. Antonia. Alors, il y a les Antilles qui rentrent. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a les Antilles qui sont entrées par le biais de ce père d'Antonia qui n'a jamais été... un père clandestin, disons. La mère ne l'a jamais épousé. Il a été apparemment son compagnon à un moment donné. Et puis, il y a un autre cas aussi qui m'a paru assez étrange. C'est le cas de Monette, qui est une femme élevée en Nouvelle-Calédonie. Alors, on a la Nouvelle-Calédonie aussi, une autre île, mais à l'autre bout du monde, qui rentre dans la vie de cette ferme du Piémont. J'ai trouvé ça assez intéressant, au fond, que même dans les recoins les plus perdus de la campagne, au fond, en tout cas au XIXe siècle, eh bien, on arrive à avoir des contacts avec des gens qui viennent de l'autre bout du monde. Et ça, j'ai trouvé assez intéressant. C'est d'ailleurs sûrement vrai que ces choses-là arrivaient.
Ah ben oui, sûrement, ces mélanges-là. Surtout qu'à l'époque, on commençait à pouvoir faire des voyages plus facilement. Il y avait en plus des affaires politiques qui attiraient un peu tout le monde au sein de l'Europe. C'est vrai que ça devait faire de sacrés mélanges à ce moment-là. Et les gens s'engageaient dans les troupes des uns et des autres pour ce qui est des hommes. Et comme les femmes devaient suivre sûrement beaucoup les hommes, elles étaient embarquées dans les destins militaires de leurs compagnons de l'époque. Puisque, en tout cas, nous, les personnages masculins, on les trouve ici dans les troupes de gens qui ne sont pas forcément italiennes, hein, à part Louise qui va se bagarrer pour effectivement, aux côtés des gens qui se battent, les nationalistes pour l'unité italienne. Et là, encore une fois, vous vous souvenez, tout à l'heure, on disait que les gens ne discutent pas beaucoup. Là, on a l'impression que son engagement, il se fait emprisonner, Louise, pour cette chose-là. Et on a l'impression que ça crée un choc immense dans la famille, mais en même temps, aucune discussion n'apparaît dans la famille. Hein. Les gens sont choqués, mais il n'y a pas de discussion.
Et les soldats qui ont participé à ces guerres, donc qui est fondamentalement Pidren et Louis, ne parlent absolument pas de leur aventure militaire à leur retour. Ça, c'est quelque chose qui m'a aussi frappé. Donc, on sait que pendant des années, ils ont fait la guerre et ils ont assisté à des batailles célèbres. Et ils ne veulent pas dire un mot sur ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont vécu, si ce n'est sur leur lit de mort. Où on a... Quelquefois, Pidren crie, il voit les Cosaques de la retraite de l'armée française après l'invasion de la Russie. Il crie quelque chose contre les Cosaques, mais sur son lit de mort. Il n'a jamais rien dit avant.
Nadine, qu'est-ce qui vous a particulièrement frappé, vous, dans cette aventure de toute cette famille? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a ému particulièrement, qui a attiré votre attention?
Moi, j'ai été séduite par plusieurs des personnages du livre. C'est surtout la manière dont le livre est écrit qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé cette fresque avec chacun. C'est pas une histoire, mais c'est une multitude d'histoires et une multitude de destins. Et c'est un livre qui réellement a un rythme, qui a un rythme qui est très prenant. C'est un rythme qui est pas frénétique. C'est un rythme qui se fait lentement au gré des saisons, au gré de la guerre, avec cet arrière-fond, au gré de l'épidémie aussi, puisqu'on parle de cette épidémie de choléra où les gens, je sais plus laquelle de ces femmes doit quitter la ferme. C'est Maria qui s'en va et qui va pour une période dans une maison beaucoup moins confortable que celle à laquelle elle est habituée. Enfin, c'est des choses qui arrivent, des épidémies, des inondations, des catastrophes. Et c'est un livre qui a énormément de couleurs. Je pense avec beaucoup de... J'ai beaucoup aimé la gravure qui est sur la couverture du livre, qui est la reproduction d'un Gauguin. C'est une reproduction qui a beaucoup de couleurs, si vous voyez le livre.
C'est dans les jaunes. Il faut que vous fassiez preuve d'un grand talent verbal pour que l'image se traduise en mots.
Il y a beaucoup de jaune, d'ocre et de coloris et on voit très bien C'est une campagne qui nous prend et qui nous impressionne. Moi, j'ai été frappée par le rythme du livre et par sa musique, finalement. J'ai l'impression que c'est un livre qui pourrait être un tableau. Par sa beauté, par sa diversité, par les mille et un destins qui se croisent et qu'on nous raconte. Et c'est un livre que j'ai trouvé très dense.
D'ailleurs, quand vous parlez de tableaux ou d'images, moi, ce livre m'a fait un peu penser au film Heimat. Je ne sais pas si vous aviez vu cette grande saga d'une famille allemande. Bon, la saga ne commence pas du tout à la même époque. Hein. On démarre au lendemain de la Première Guerre mondiale et jusqu'à de nos jours. Et on suit on vit l'histoire de l'Allemagne au travers d'une famille et d'un village aussi. Et les femmes ont aussi un rôle un peu charnière comme ça. Elles ne sont pas les uniques personnages de nouveau, mais elles sont un petit peu les piliers qui font qu'à un moment donné, on part dans un endroit ou dans un autre au gré de la vie de certains pour faire avancer la saga de la famille. Mais Vous pensez que, par exemple, ces livres qui représentent des fresques historiques, j'ai l'impression que ces temps, c'est souvent le contenu de certains livres, tout à coup, de profiter d'une période d'histoire pour raconter l'histoire du commun des gens, mais en partant d'une trame historique. Ça, c'est une chose qui prend de plus en plus de place dans la littérature, et les femmes se lancent dans ce genre d'aventure et d'écriture. Parce que Rosetta Loi, pour ce livre-là, a reçu toutes sortes de récompenses. Donc,
oui, elle a été donc considérée en Italie comme actuellement un écrivain de pointe. Elle a obtenu 4 prix littéraires l'année passée pour ce roman, mais elle a écrit avant d'autres livres. Mais je ne sais pas s'ils sont traduits actuellement de l'italien en français. C'est ce dernier livre qui, en fait, fait actuellement sa célébrité. Elle a d'ailleurs passé dans une émission littéraire à la télévision. Mais je crois qu'effectivement, c'est assez intéressant de se poser la question si ce livre, en fait, est écrit différemment de ces romans historiques qui, disons-le, pullulent.
Ça me semble être très fréquent.
C'est effectivement un genre qui plaît, je crois, à beaucoup de gens, parce qu'à la fois, on a l'impression qu'on apprend quelque chose sur une époque quand on lit des livres avec une trame historique. Et souvent, l'actualité historique donne aussi un certain suspense à certains événements qui se passent dans le roman. Moi, j'ai trouvé que dans ce livre de Rosetta Loi, c'est très, très différent. Parce que l'histoire est importante, mais les personnages sont combien plus importants dans leurs sentiments et dans la manière qu'ils ont d'interpréter leur vie. Et j'ai trouvé que dans ce sens-là, l'histoire n'est qu'un prétexte. Enfin, la saga historique n'est qu'un prétexte à présenter justement une fresque de personnages fourmillantes.
Cosiddetta femminile, io l'ho fatto ed io ho trovato l'idiozia più evidente, tutto quanto è calcolato, perché non si pensi a niente, la ragazza copertina ti sorride, se noi gambe reclamizzano i prodotti, e l'amore del tuo uomo lo misuri. Se ti compra il frigo ultimo modello, pagine e pagine sono dedicate a quante volte va al cesso un re, sei sopra l'autobus ogni mattina, leggi le storie della regina, c'è il mammismo più incallito che una piaga tutta nostra, c'è il colore del vestito o come cuocere un si trova qualche accenno alla politica, lei signora ci auguriamo andrà a votare, non dimentichi perciò qual è il partito che tutela la sua unione familiare. Come non lo sa? Lo chiede al suo marito, non è sposata, niente di grave, a pagina 23 troverà 7 consigli 7 su come conquistare un uomo nel giro di una settimana. Bene.